I am so pleased to introduce world-renowned musical artist Aretha Franklin to sing My Country, 'Tis of Thee.
J'adore ton énergie, Martin Proulx.
Oui, mais là, c'est parce que c'est une journée sombre pour moi.
Oui, c'est une journée sombre sous le signe du poisson. Ce sera bientôt ton anniversaire.
Ce sera mon anniversaire dans une semaine. Et les astres, puisque tu en es l'expert, s'alignent pour que ce soit relativement apocalyptique. Premièrement, je suis malade comme la démocratie américaine. Donc, vous entendrez un reniflement incessant.
Et moi, je te vois, là, t'as les yeux fatigués, là.
Oui, oui, j'ai les yeux fatigués comme l'électeur moyen américain, vraiment fatigué
de tout ce cirque.
Ce cirque. Et puis, je vais avoir 35 ans, fait que je bascule de l'autre côté. Tu sais, du côté, tu sais, là, c'est irrécupérable. C'est pas grave, mais il y a quelque chose d'irrécupérable.
Ça te traumatise, ça te traumatise.
Non, mais c'est la première fois que j'y pense. Je me dis 35 ans.
Tu sais, 35 ans, si je me souviens bien, c'est l'âge minimal pour devenir président des États-Unis. Bon, après ça, il y a d'autres critères.
Il y a un âge, hein, minimal.
Je pense que c'est 35. Mais bon, il y a plein de critères que tu ne rencontres pas, là, donc tu n'es pas citoyen américain.
Non, c'est ça, c'est pas l'âge qui est aux États-Unis. Ouais.
Mais le fait d'être né aux États-Unis, c'est particulier, hein, parce que on sait tous qu'Arnold Schwarzenegger aurait voulu être président des États-Unis, mais comme il est né en Europe, il ne peut pas se présenter.
Oui, il a plafonné à Muscle Boy et gouverneur.
Non, Sacramento, à gouverneur quand même.
Gouverneur. Non, mais tu sais, c'est quand
même pour mixer. Même s'il a trompé une Canadienne avec la nounou, bon, c'est
ah oui, je sais pas.
Mais oui, l'histoire d'Arnold, c'est qu'il était marié avec Maria Shriver.
Ah, ben oui, Maria Shriver, qui était star, journaliste, star de la NBC.
Et ils se sont divorcés parce que il a couchaillé avec la gouvernante.
Ah oui,
l'employé
ça
arrive
souvent ça. Shania Twain, ça y est arrivé aussi, ça.
Oui, oui, mais elle a pas couchaillé, c'est son mari qui a couchaillé.
Avec la nounou.
Avec la nounou, exact.
D'ailleurs, Shania Twain était partie avec le mari de la nounou.
Oui.
Ils ont vraiment fait un soir. Mais là, on est en territoire canadien, on s'égare de notre...
Mais il n'y a pas cette histoire de Hunter Biden qui sort avec la veuve de Beau Biden.
Oui,
c'est pas
ça, c'est
l'histoire.
Oui.
Ça, c'est extraordinaire.
Oui.
C'est incroyable. T'imagines, ton frère meurt en héros. Oui. Toi, t'es le mouton noir. Ton frère meurt en héros.
Mais c'est-tu la veuve ou... En tout cas, il faudrait faire nos recherches, comme on dit.
Comme on disait,
en pandémie, on va faire nos recherches, puis
on va
se faire une théorie, mais...
Mais non,
Thomas, je porte le noir parce que c'est...
Le deuil de ton début trentaine. Ton début trentaine est terminé. Là, t'es dans tes mid-30s, qu'on dit.
Exact. On dit ça. Je suis comme dans mes mid-terms. On peut faire ce parallèle-là. Mais non, pour la première fois depuis le début de cette aventure, Thomas, entre toi et moi, et ce micro... et cette obsession pour la politique américaine.
Ouais.
Hier soir, d'abord, j'ai fait de l'insomnie toute la nuit et j'ai entrevu pour la première fois, sincèrement, c'est une intro dramatique, hein? Attendez, mind punch. J'ai entrevu vraiment pour la première fois cette nuit que ça pouvait être la dernière élection.
Mais c'est possible!
L'actualité, c'est la nouvelle qui est tombée hier, je pense qu'on la sous-estime. Parce que la Cour suprême des États-Unis...
Mitch McConnell,
c'est en tant que froze puis un step down. Ceux qui ne le savaient pas, Mitch McConnell step down de son rôle comme leader de la minorité au Sénat américain, républicaine. Voilà. On savait bien que lui et Trump, ça n'était pas copain, surtout depuis qu'il appelait la femme de Mitch McConnell Coco Chow. Donc, Hélène Chow qui disait « She's from China ». Alors,
je vais revenir. Fait que là, tu as entrevu la dernière élection parce que la Cour suprême a dit qu'ils entendraient la cause de ne pas accepter la candidature de Trump.
C'est extrêmement grave. Ce qui arrive, Oui. C'est que le fait que la Cour suprême des États-Unis ait dit quoi? Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? La Cour suprême des États-Unis a décidé d'entendre Trump comme demandeur visant à renverser la décision unanime de la Cour d'appel qui lui disait qu'il n'avait pas l'immunité à titre de président. Donc, oui. Un président n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Décision très étoffée, unanime. Tous les experts judiciaires aux États-Unis disaient probablement que la Cour suprême voudra même pas l'entendre parce que la Cour d'appel a mis la table à ce que ils la refusent. Puis ils disent, ben non, la Cour d'appel, ça faisait bien du sens. C'est une décision unanime. Et s'il y a un principe aux États-Unis, c'est que les présidents ne sont pas des rois. Voilà. Mmh. Depuis 250 ans, ce qui est quand même pas chose mineure.
C'est pas rien, ouais.
Et hier, après deux semaines d'attente interminable, ils ont pondu de deux petits paragraphes en Times New Roman 12, OK? 200 mots, peut-être même en Arial, ça, je me suis pas rendu là.
Au moins, c'est pas Comic Sans, mais on serait pas surpris si un jour la Cour suprême oui. voilait ses jugements Comic Sans, là.
Ou qu'ils vivent folle, puis ils font ça en GG, tu sais, la police de l'être attaché, là, en italique. Ils ont dit finalement qu'ils allaient prendre, qu'ils allaient entendre cette cause.
Oh là là.
Et donc, l'impact réel de ça, c'est les délais. Et qu'est-ce que Trump souhaite actuellement? C'est d'engendrer délai après délai. Et les délais dans quel cas? Dans le cas de la cause qui est devant un tribunal à Washington, D.C., devant la juge Tanya Chutkan. Formidable, Tanya Chutkan, qui ne peut plus procéder actuellement.
C'est la cause sur l'insurrection. Là.
C'est la cause sur l'insurrection, à savoir est-ce que Trump est responsable d'avoir voulu renverser le gouvernement et d'avoir voulu voler une élection. Grosso modo, cause menée par le procureur spécial Jack Smith.
Donc Trump, lui, en fait, depuis le début, il se comporte en roi, puis il voudrait que la Cour suprême se range de son côté et dise qu'il y a une immunité en étant président.
Mais oui, mais même les avocats de Trump disent on gagnera pas sur le mérite. Sauf que ce que ça peut faire, c'est que les délais vont être tellement longs que la cause ne sera pas, le procès n'aura pas lieu avant l'élection de novembre 2024. Et si Trump gagne, la preuve que possède Jack Smith ne sera jamais présentée au public et cette cause-là va probablement être simplement balayée de la main par le nouveau procureur général de Trump.
Je sens que spiral, Martin.
Non, pour vrai, je suis tombé dans les rabbit holes.
Je te vois, là.
Hier, ma consommation a été... ça a été une dure nuit. Et honnêtement, j'ai écouté les commentateurs puis c'est peut-être à cause de ça. Parce que tous les sondages, puis c'est pour ça que, ça m'amène sur le sujet de notre invité, le roi des sondages, à qui on va parler tantôt.
L'empereur de la marge d'erreur.
La légende de l'aiguille.
Oui. Tu vois? Associé à la guerre des clans dans les années 90.
Aussi, par ailleurs.
Oui.
Jean-Marc Léger.
Absolument. On va parler de sondages avec Jean-Marc Léger.
On va parler de sondages et l'élément clé qui pouvait faire bouger les sondages en la faveur des démocrates, c'était si les Américains, qui sont très attachés quand même, plus qu'on pense à la démocratie, si Trump était reconnu coupable de...
Je pense qu'ils sont surtout attachés au fait de ne pas avoir quelqu'un qui est reconnu criminellement coupable d'un crime comme président. Je pense que c'est surtout ça. C'est pas tellement la démocratie, c'est plus comme...
La première cause qui va avoir lieu, c'est probablement celle de Stormy Daniels. Puis c'est pas vraiment une cause qui crée un grand qui déchaîne les passions aux États-Unis. On dit que c'est un peu frivole, etc. Quoique c'est criminel, mais ce n'est pas la cause qui. Alors que le 6 janvier, c'est des images qui sont carrément traumatisantes pour beaucoup d'Américains. Le Capitole attaqué, etc. Des gens qui meurent, des bombes posées aux quartiers généraux du Parti démocrate et du Parti républicain. Je veux dire, c'est majeur.
Ouais.
Et là, cette cause ne pourrait, en raison de la Cour suprême qui est, faut-il le rappeler, conservatrice, pourrait ne jamais voir le jour. Alors là, je me suis dit, c'est peut-être la dernière élection.
Moi, j'ai un grand stress post-traumatique, puis on va revenir là-dessus avec Jean-Marc Léger sur toujours les 10 semaines ou la période entre la fête du travail et l'élection. ce qu'on a vécu en 2016 avec les courriels, avec le FBI, ce qu'on a revécu en 2020 avec la mort.
Je m'entends là, Jean-Marc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Oui. Je veux dire, l'industrie du sondage a vécu probablement son plus grand électrochoc, qui est la victoire de Trump et tous les sondages qui pointaient dans la mauvaise direction. Et ça, ça me donne quand même un peu d'espoir actuellement parce qu'on sait que Trump mène dans les sondages. Et ça, il va falloir que je parle à Jean-Marc. Ça se peut qu'il maïsse à la fin de ce podcast. Mais je veux vraiment avoir réponse à mes questions.
Parce que moi, je me prépare. Tout le but là, de ce podcast avec toi, Martin, c'est de survivre à cette fenêtre qui va aller de la fête du travail du 1er septembre à l'élection début novembre, donc un 2 mois. J'ai honnêtement failli virer fou en 2020 là, avec la mort de Ruth Bader Ginsburg, les audiences avec Amy Barron Cohen.
Amy Coney Barrett.
Red Temperature, elle.
Faut que tu le dises vite comme un amour. Amy Coney Barrett. C'est comme une chanson country.
Elle, ouais. Et là, tout ce qui se passe présentement avec les traitements de fertilité, c'est vraiment terrible. Fait que, bref, il faut se préparer parce que ça va être rushant. Ça va être un 10 semaines.
Absolument.
Rushant jusqu'à l'élection. Puis on se souvient aussi même qu'en 2020, ça a pris quand même un 5 jours avant que l'élection soit confirmée pour Biden. Par les personnes rationnelles et les adultes dans la pièce.
Oui.
Bref, fait que c'est ça. On
est dans un tourbillon infernal. On va en parler avec Jean-Marc, qui est, somme toute, l'expert du data.
Oui, mais oui, lui, il a réussi à mettre 4-36. Parce que toi et moi, ça a fait.
4-16 à récupération le mardi matin, je ne comprenais pas les diagrammes de Pythagore, puis le rapporteur d'angle, c'est un...
Moi, Madame Hamel m'a fait passer parce que j'étais sympathique. Elle me l'a dit après. Elle dit, toi, t'aurais pas dû passer tes maths. Mais c'était 5,36. Elle me dit, toi, t'aurais pas dû les passer tes 5,36, mais t'es sympathique.
Une homme charitable, mais non, mais...
C'est le privilège. Oui, le privilège roux.
C'est le privilège roux, on le dira comme ça. C'est Jean-Marc est l'expert du data et je pense qu'il pourrait... En fait, je ne sais pas s'il va se mouiller. T'sais, s'il va faire comme moi, je pense que... En fait, c'est ça que j'ai envie de savoir. Es-tu capable, lui, à titre de sondage, de faire des prédictions ou c'est comme anti dans les règles des sondeurs? Est-ce qu'il ne peut pas...
influencer les sondages, fait que c'est bon. OK.
Exact.
OK. Bon, ben c'est parti.
Il est très passionné. J'ai eu des échanges quand même, je ne veux pas dire épistolaires, là, parce que les gens penseraient que...
Les lettres d'amour.
Mais non, on n'est pas allé jusque-là, mais peut-être après, on verra. Mais non, il est très, très, très passionné. Puis lui, justement, attendait cette décision-là parce qu'on devait se parler la semaine dernière. Finalement, on l'a reporté. Et il a dit, c'est encore mieux si on reporte parce qu'on va avoir la décision, à savoir si la Cour suprême va entendre l'appel de Trump quant à l'immunité. Alors, autant de questions.
On appelle Jean-Marc
Léger. Oh, on le met sur la ligne.
On le met sur la ligne, c'est parti.
C'est vraiment un grand jour parce qu'aujourd'hui, je suis un peu groupie. On reçoit une légende d'un domaine qui m'obsède depuis 2016, l'industrie du sondage. Et la légende de chez nous qui a un succès comparable au Cirque du Soleil et à Céline Dion parce qu'il est une star internationale maintenant, c'est Jean-Marc Léger. Bonjour Jean-Marc Léger.
On vient de monter les attentes.
je pense qu'on est réaliste, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui savent pas que Léger quand même est un acteur hyper important dans l'industrie du sondage, particulièrement aux États-Unis, ce qui nous intéresse ici. Vous avez une renommée internationale, vous ne vérifiez pas seulement si la CAQ est encore en retard dans les sondages. Là. On joue dans les grandes ligues, on vérifie si Trump va revenir au pouvoir, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. On a fait des sondages un peu partout dans le monde, mais il n'y a pas un grand continent ou pays que j'ai pas fait. Là. Mais les États-Unis demeurent aussi ma propre passion. Là. Le plaisir, c'est de travailler aux États-Unis parce qu'il se passe tellement de choses. Tous les jours, c'est une réalité, c'est un show quotidien aux États-Unis. Et à chaque fois, ben, quand on mesure, ben, ça bouge beaucoup plus rapidement que ça peut bouger ailleurs à travers le monde. J'ai organisé un webinaire avec les meilleurs sondeurs au monde dernièrement sur les élections américaines pour avoir le point de vue différent parce que les États-Unis, c'est 330 millions de personnes. C'est comme si l'Europe au complet ou à peu près votait pour une élection. Fait que t'as de l'extrême gauche à l'extrême droite, t'as toutes les visions politiques qui s'incarnent dans deux personnages, Joe Biden puis Donald Trump. Mais derrière ça, il y a quelque chose de très, très costaud, là.
Oui. Mais c'est pas juste qu'il s'incarne dans ces deux personnages-là, c'est qu'il s'incarne dans un système compliqué, état par état, comté par comté, où finalement les sondages nationaux, à presque un an de l'élection, ou à 8-10 mois de l'élection, valent, en tout cas on va y revenir, mais valent quelque chose.
Non, mais on va pas y revenir, plongeons, parce que l'angoisse est à son comble.
On est bien stressé, Jean-Marc, en ce moment, Martin.
Moi, j'angoisse un peu. Le titre du balado, c'est la dernière élection. C'est une question très ouverte qu'on pose. Est-ce la dernière élection? Au sens où la dernière élection avec une démocratie, les États-Unis qui jouent un rôle important dans le monde, etc. Le retour de Trump, veut-il dire que c'est la dernière élection comme on l'a connue? La question se pose. Les sondages actuellement, Jean-Marc, disent que Trump a une légère avance. C'est pas mal dans la marge d'erreur, mais quand même, si on regarde les sites, les agrégateurs comme 538, où Trump est en avance de 2 à 6 points, particulièrement dans les États clés. On le sait, vous parlez de 350 millions, mais ça se joue à peu près à 200 000 votes dans 7 États clés, une élection aux États-Unis. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on doit angoisser ou on doit se calmer, Jean-Marc? Dois-je avoir une prescription d'activant ou je pourrais respirer un peu mieux?
Non, je pense qu'il faut se stresser. La possibilité que Donald Trump devienne président des États-Unis est réelle. S'il n'y avait pas de procès actuellement, là, comme sondage, la tendance est tellement forte. Parce que Trump a augmenté à chaque fois qu'un nouveau procès est arrivé. Vous savez, il était à 40%, il monte à 42, à 44. Là, moi, dans mon dernier sondage, il y a 4 points d'avance sur Joe Biden, 46-42. Vous savez, le 46 de Donald Trump, là, c'est exactement le même qu'il a obtenu en 2020, il y a eu 47%, ou en 2016, 47%. Il va pas chercher un gain de plus, mais il en perd pas un non plus. Malgré tous les procès, les attaques, l'homme est encore debout. Là, on parle d'un gars qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, qui a été reconnu coupable de fraude fiscale, reconnu coupable de mensonge, qui est accusé de conspiration, de corruption, de détention de faux documents, puis d'insurrection. Mettez-en, la cour est pleine. Puis malgré tout, là, la moitié des États-Unis sont derrière lui. Martin, il y a toujours eu des fous en politique américaine, les Pat Buchanan, ce monde, ça, mais jamais avec 47 % d'appui. C'est ça qui est différent, c'est que tu dis, ce gars-là, qu'est-ce que tu veux, ça n'a pas de sens vu du Canada, comment se fait qu'on peut voter pour ça?
Mais je vais me faire l'avocat du diable, en 2016, on regardait les sondages, Hillary avait une petite avance, puis on se disait, on va être correct. T'sais, moi, j'en parle souvent, j'ai un stress post-traumatique de l'automne 2016 et de l'automne 2020 aussi, à la lumière de ces sondages-là. Pourquoi cette fois-ci, il faudrait la croire, cette avance-là, Jean-Marc Léger de Donald Trump?
Les sondages ont eu raison au niveau national. Les sondages donnaient 48-46 pour Hillary Clinton, il y a eu 48-46. Globalement, les sondages ont été bons, sauf dans 4 états clés où Hillary Clinton devait gagner. On parle du Wisconsin, de la Pennsylvanie, on parle de la Caroline du Nord. Ces états clés-là où elle devait gagner par 3-4 points. Puis finalement, Trump a gagné par 1%. Hein? Fait que ça a été quand même à l'extérieur de la marge d'erreur, mais c'est parce que ces états clés-là, c'est ça qui fait toute la différence. Martin l'a mentionné tantôt, les États-Unis, c'est 50 élections. C'est pas une élection, ça en a 50. Mais il y en a 43-44 qui n'ont aucune importance, parce que on sait ce qui va se passer dans Utah, puis ce qui va se passer en Californie, puis ce qui va se passer dans l'État de New York. Mais il y a quelques états clés où ça joue par quelques votes. Prenez l'État de la Géorgie, ça s'est joué par 12 000 votes. Et Donald Trump a appelé le directeur des élections, a dit « Écoute, peux-tu me trouver 12 000 votes parce qu'on va être capable de virer le résultat? »
« I just need 11,800 votes. I just need that. » C'est ça qu'il dit à Brad Raffenberger, je pense, qui était le secrétaire d'État en Géorgie. Oui.
Et c'est fou, puis c'est enregistré, là, ça va être en procès. Mais Trump réussit à reculer tout ça, puis l'appui des Américains demeure là, puis demeure important. Vous savez, il y a quelque chose aux États-Unis que j'ai appris, c'est que les Américains préfèrent voter pour un leader fort qui se trompe à un faible qui a raison. On veut le winner à l'américaine, celui qui est contre le système, celui qui est une victime, mais tu sais, il va prendre sa revanche à la fin, il va tuer tout le monde. Là.
On aime l'histoire, on aime le narratif que ça suggère, on aime le storytelling que ça suggère un peu, puis en fait, je pense que c'est ça. L'effet des procès de Trump en ce moment, parlons-en parce qu'hier, il y a eu une décision majeure de la Cour suprême, c'est que ça consolide la base de Trump. Et le danger pour Biden, moi, je pense que Biden a un plafond plus élevé, il peut aller chercher plus de monde, mais est-ce qu'il va sortir son vote? Est-ce que les gens vont... Et c'est ce qui s'est effondré en 2016, c'est le vote d'Hillary Clinton qui s'est effondré. C'est pas le vote de Trump qui a été plus fort, c'est son vote à elle qui s'est effondré.
J'en pensais qu'elle allait gagner de toute façon, donc pourquoi s'il était pas très excité? Puis ça, on revient peut-être à la question de l'enthousiasme, qui est quelque chose d'autre qui est mesuré puis qui est super important, c'est que les gens sont enthousiastes aller voter. Mais Jean-Marc Léger, je voudrais savoir un peu l'évolution, parce qu'aujourd'hui, tu sais, je me souviens à l'époque de la guerre des clans, là, au début de Léger, là, puis là, on appelait les gens au téléphone, puis on disait dans cette catégorie-là, ça, les sondages, c'était un peu futuriste à l'époque, on appelait les gens chez eux, on comprenait un peu c'était quoi, alors qu'aujourd'hui, c'est comme les gens ont plus de ligne maison, ils ont des cellulaires, ils sont sur Internet, comment on les rejoint?
Il y a un niveau de... un sondage, en fait? Est-ce que c'est vous, Jean-Marc Léger, qui appelez le monde? Est-ce que vous envoyez des textos? Comment ça marche? Je pense qu'on parle beaucoup de sondages, mais pour les nuls, là, comment ça fonctionne?
Nous, on a à peine passé nos maths de secondaire.
Oui, on était 600 pas... employés. Ouais, fait que c'est quand même assez costaud. 600 employés. On a la plus importante firme à propriété canadienne, là, 600 employés. Puis forcément, les techniques ont évolué. On est beaucoup plus sophistiqué qu'avant en termes de technique. Mais l'électeur est plus complexe qu'avant. Voyez, par exemple, l'électeur peut changer 3 fois d'opinion dans la même campagne électorale. Avant, là, tu naissais libéral, tu mourais libéral. Fait que c'est facile de l'évaluer. Aujourd'hui, tu changes de minute. Aux dernières élections canadiennes, il y a eu 10% des électeurs qui ont choisi leur parti dans l'isoloir.
Wow.
Fait que le problème, là, c'est en boutade, là, c'est pas les sondages qui sont pas fiables, c'est les électeurs qui sont pas fiables.
C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant, le vote, donc plus volatile, plus difficile à prédire.
Moins loyal, puis aussi un peu plus émotif, parce que quand ça bouge de 2% au Canada anglais dans mes sondages, c'est l'hystérie collective. Là, la semaine passée, notre ami Poilievre a gagné de 39 à 41%, 2 points de plus, là, si j'ai des articles partout au Canada. Au Québec, ça bouge de 15%, on appelle ça une saute d'humeur. C'est normal. L'autre, si on tombe en amour avec Paul Saint-Viette à Mondon, tout d'un coup, il est important, puis demain, on va le laisser tomber, on va avoir un petit nouveau qui va arriver, puis on va l'appuyer. T'sais. C'est très émotif comme réaction. Comme sondeur, il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter à cette réalité-là. C'est pour ça que le sondage, c'est lequel est pas important. La tendance est plus importante. Prenez la CAQ. Il y a un an, il est à 40%. Là, il est rendu à 25. Puis il a pas fini de chuter. Fait que c'est une tendance qui est claire, là. Ça s'en va dans une direction. C'est ça qui est intéressant. Aux États-Unis, c'est pour ça qu'on a un peu la projection sur l'élection de Trump est probable parce que la montée est systématique. Trump a continué. À l'élection de 2020, Biden a eu 51 puis Trump a eu 46, un peu plus que 46% à l'élection. Bon, aujourd'hui, Trump a encore sur 46, Biden il y a 42. Il y a 9% qui a perdu puis qui est allé à Robert Kennedy, qui est allé à Jill Stein, aux écologistes, qui se répartit parce qu'il risque d'avoir plus que 2 candidats.
Et on parle pas encore de no label. Là. Ça, c'est il va y avoir d'autres choses à mesurer, comme l'arrivée potentielle d'un ticket de no label avec on sait pas trop qui, mais ils travaillent fort pour avoir des gens. Ça se peut que sur le bulletin de vote, il y ait 3 ou 4 candidats qui, vous pensez, pourraient faire plus de tort à Joe Biden qu'à Donald Trump?
Ah, c'est direct. Quand tu les enlèves, l'écart se réduit à 2 points. Quand tu les rajoutes, c'est rendu à 4 points. Puis Biden descend. Parce que Biden ne suscite pas d'enthousiasme. D'ailleurs, on se demande pourquoi il est encore candidat. Là. À l'âge qu'il a, porté sur ses épaules le pays le plus puissant du monde, c'est pas évident. T'sais, puis ça, c'est un choix qu'il a fait personnellement parce que les...
Mais moi... Voyez là-dessus, je vais y aller avec quelque chose d'émotif. Moi, j'adore Joe Biden. Je suis probablement le seul à le défendre ici des gens que je connais. Je pense qu'il a été constamment sous-estimé. Ça remonte à sa carrière de sénateur, mais ça remonte aussi en ce qui nous concerne plus à sa course à l'investiture en 2019. Il est en retard. La Caroline du Sud est arrivée, James Clyburn, etc. C'est le comeback kid. Je pense qu'il a été sous-estimé à chaque test électoral, Joe Biden. Mon point de vue, c'est que les États-Unis et le monde diront que c'est l'homme qu'on avait besoin à ce moment-là. Et moi, je pense que Joe Biden, on se souvient d'un discours célèbre à Philadelphie, je pense, qu'il avait donné. Il avait dit « I don't see myself as anything else as a bridge » en 2019. Un peu pour allier là, la gauche qui voulait Bernie Sanders puis Kamala Harris.
Le pont est un peu long, là, Martin. Là,
mais là, le pont est long.
Tout ce que tu dis au passé, il est comme ça. Le problème, c'est aujourd'hui, à 81 ans, il suscite tellement peu d'enthousiasme, oui. Tellement moins d'énergie. J'écoutais un balado américain sur les élections américaines, là, j'oublie de New York Times, j'oublie d'auteur, de Ezra, j'oublie,
c'est Ezra Klein, ouais.
Il comparait 2 discours de Joe Biden en 2020 puis aujourd'hui. Comment le ton est différent, comment l'énergie est différente, la confusion est là. Fait que l'homme, il est extraordinaire. Il a fait passer des politiques extraordinaires pour les États-Unis, pour niveler un peu l'écart entre riches et pauvres, qui est le problème majeur aux États-Unis, là. Mais aujourd'hui, à 81 ans, est-il encore la personne clé?
Mais moi, je pense que tout le monde a raison de dire que ça a pas, objectivement, ça a pas vraiment de bon sens qu'un homme de 81 ans soit le leader du free world. Mais je pense que ce qui est venu, un peu changer la carte de son discours du bridge de 2019, c'est que Trump est pas parti. Moi, je pense qu'il disait, ouais, on va battre Trump. Puis tout le monde, Mitch McConnell, qui vient d'annoncer hier qu'il ne briguera pas la majorité au Sénat de son groupe républicain. Tout le monde pensait que Trump allait vanish, qu'il allait s'en aller, qu'on allait passer à autre chose.
Les candidats qui ont été battus depuis le début de l'histoire américaine.
Oui. Mais sauf qu'il n'est pas parti. Et donc, je pense que les démocrates sont trop avec un problème, puis on sait c'est quoi une primaire. Moi, je pense que le calcul qu'a fait Joe Biden, et on spécule, mais c'est parce qu'on est dans un balado pour notre fun, c'était de se dire, si je m'en vais, il y a une primaire, on se déchire, la gauche essaie de nous passer un candidat qu'on va taguer de socialiste. Danger, danger. Ont-ils la notoriété suffisante pour mener une campagne? Trump se faufile.
Moi, je pense que dans les faits, Joe Biden, c'est le seul politicien qui a battu. Oui.
Mais là, aujourd'hui, là, il perd partout. Il perd au national, il perd dans les États-clés, il n'y a pas d'enthousiasme dans sa campagne. Physiquement, ça va être une campagne très diminuée. C'est pas évident. C'est sûr qu'on a mieux un Joe Biden solide avec 44, 45, 46% des voix qu'un risque, parce que qui est celui qui pourrait le remplacer? C'est pas évident. Ça peut aller de l'extrême gauche au centre. Ça, on comprend tout ça, mais une chose est sûre, c'est que l'électorat américain aime la nouveauté. Puis un des éléments qui rallie autant la gauche puis la droite, c'est qu'ils veulent pas un rematch Biden-Trump.
Non, ça c'est sûr. C'est très impopulaire. En même temps, je voyais dans quelques sondages, puis je sais pas à quel point ça se vérifie bien, mais quand on met Gavin Newsom contre Trump, quand on met Kamala Harris contre Trump, quand on met Pete Buttigieg contre Trump, ils ont tous comme 7 à 8 points de moins que Joe Biden.
Oui, mais un sondage hypothétique a toujours des limites. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose. Aux États-Unis, c'est pas un sondage qu'il faut suivre. Follow the money.
Ah oui, c'est ça.
Qui est capable d'aller chercher l'argent? Moi, là, j'ai fait toutes les conventions américaines. Je suis là présent aux conventions américaines. Moi, je suis un vrai groupé aux élections américaines.
Vous avez la même maladie mentale que nous. Vous avez la vraie drogue dure de la politique américaine. On parle un real.
C'est quand t'es là à côté des gens de CNN, à côté des gens de Fox News, quand t'es avec la famille Kennedy, quand t'es avec la gang des républicains, à l'époque, c'était George Bush là, qui était au Madison Square Garden là, avec toutes ces 25 000 personnes autour puis qui disaient ceci. Vous savez, c'est le pays de la liberté. C'est le pays où, à travers le monde, on amorte la démocratie. Et dehors, là, il y avait à peu près 50 000 policiers, 10 grillages pour te rendre. Ça, c'était tellement absurde. Là. C'est un monde, la politique américaine. C'est un spectacle. Les conventions, là, c'est plus que les ballons que vous voyez le soir. Là. C'est que dans la journée, il y a une série d'événements où tu rentres dans la dynamique américaine. Moi, j'ai rencontré Obama. Personnellement, j'ai jasé avec Obama avant qu'il soit élu. Quatre ans plus tôt, il y avait une convention, c'est John Kerry qui était le candidat des démocrates, et je me retrouve dans le corridor face à la rising star, Barack Obama. Puis tout d'un coup, je suis avec mon ami John Parizella, on décide d'aller y jaser. Donc on va jaser avec Barack Obama, qui n'était pas encore président, mais il se présentait comme sénateur dans son état, puis mais il faisait son discours. Puis après une heure avant son discours, on va jaser, puis il dit, monsieur Barack, puis on pose la question, les rumeurs veulent que vous soyez candidat au président des États-Unis pour la prochaine élection. Est-ce vrai? Pour question de groupie. Il répond, il dit, vous venez du Canada, hein? Si près des États-Unis, mais si différent en termes de valeurs. Oups, la conversation vient de passer d'un autre niveau, là. Il répond, vous savez, c'est au peuple américain de choisir. S'il m'élise la première fois, c'est sûr que mon objectif, c'est d'unir l'Amérique et de me présenter à la présidence. C'est des vraies réponses d'un gars. On avait été subjugués par l'individu qu'on avait rencontré. Fait que Barack Obama est mon grand ami du temps-là.
C'est ça qu'on apprend, là. C'est quand même pas pire. C'est du bon name dropping, ça.
Puis je suis assis juste en avant de Joe Biden à la convention. Il était au siège en avant de moi. Il était vice-président à ce moment-là parce que c'est au discours d'Obama. Puis tu voyais vraiment le succès américain, un sourire de télégénique, là. Sa famille à côté, toute blonde, toute égayée. Tu voyais toute la dynamique américaine. Mais, je dis ça pour vous revenir, c'est que je rencontre à une des conventions l'organisateur de John McCain. Oui. On parle de sondage, de tendance, un peu comme on fait. Il dit, guys, follow the money. Ça, là, ça a été pour tous les candidats, sauf Trump. Parce que Trump, étant donné qu'il est milliardaire, quand il a fait des foleries en disant qu'il prenait les femmes par les parties génitales, là, tout son financement a tombé. Mais lui, il a commencé tout à financer sa campagne. Normalement, John Edwards, par exemple, a chuté quand on a appris ses affaires personnelles, c'est son infidélité. Le financement s'en va. Trump, à ce moment-ci, est dans le trouble. Oui. S'il perd, c'est pas juste à cause des jugements, c'est qu'il est plus capable de lever de l'argent.
Bon. Il va discuter. Là, Jean-Marc, j'ai envie de dire que le ciel vient de s'éclaircir à travers les nuages sombres.
C'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Parce qu'on le sait. le RNC, le parti républicain est dans le trou en ce moment.
Il y a 8 millions dans ses comptes de banque, ce qui est dit, versus 24 millions aux dernières élections, au même moment. Il y a de la difficulté financière et Trump aurait 33 millions dans son compte de banque. Il y a de la misère à l'échelle du financement. Il a besoin de 500 millions minimum pour faire la campagne présidentielle. Et là, il y a vraiment de la difficulté à lever de l'argent. Fait que jusqu'à maintenant, c'est son principal problème.
C'est à peu près ça, une campagne là, de nos jours, c'est à peu près un demi-milliard.
800 millions pour faire la campagne aujourd'hui, là, t'as? Et là, la clé, c'est qu'il y a de la difficulté à lever ça parce que le problème, c'est qu'il prend l'argent et il paye ses avocats. Fait que le monde, au début, ça a marché, là, mais aujourd'hui, l'année passée, il a payé 50 millions de dollars d'avocats en 2023. Il a embauché 63 firmes d'avocats différents. Parce qu'ils s'en vont tous après un certain temps. Soit Trump, ils mettent dehors ou parce qu'ils quittent, là. Fait que ça coûte, puis il est obligé de payer upfront. Parce que sinon, les avocats ne veulent plus le suivre, là. Fait qu'il y a vraiment un problème monétaire, cet individu-là. Et là, il doit payer plus de 400 millions de frais légaux. Fait qu'il est vraiment, c'est vraiment là qu'il est en train de se faire avoir, là.
Oui. Puis d'ailleurs, il a tassé Rona Danielle McDonald, qui était la chair du parti républicain, qui, je pense, devait mener, trouver que ça avait pas de bon sens, que ça devienne le compte-check de ses troubles légaux. Il a mis Laura Trump, donc sa belle-fille, la femme de Eric Trump, qui, j'imagine, n'aura pas de problème à prouver que l'argent reçu par la vente des sneakers, parce qu'on sait qu'il a mis en vente de jolis souliers de course dorés, est directement, non pas à promouvoir des candidatures dans des états-clés ou à acheter de la pub à la télé, mais à payer le cas de Stormy Daniels. Là,
c'est un peu ça. Elle a dit directement, vous savez, c'est au Parti républicain de payer les 450 millions que Trump doit payer pour ses fraudes fiscales. Elle a dit ça explicitement. Fait que là, c'est fun. Fait que tu siphonnes tout l'argent des gens qui ont peu d'argent, qui ont des ménages de misère qui ont de la difficulté à arriver, tu siphonnes leur argent pour payer les frais d'avocat d'un homme comme Donald Trump. C'est ça le système. Le système est un peu croche, tu sais.
Est-ce que vous pensez que ce problème d'argent-là pourrait avoir raison de Donald Trump, pourrait réduire son avance?
S'il n'est pas mis en prison avant, ce que je pense qu'il va peut-être être mis en prison avant, là, qu'il va peut-être être emprisonné, là. Parce qu'en passant, dans les sondages, le seul facteur qui peut l'empêcher d'être président, c'est s'il y a les menottes au point puis qu'il est emprisonné.
Exact. Et ça vient d'être compromis. Hier, on vient d'avoir on a eu peut-être cet espoir-là, je pense, s'est envolé quand même de façon assez grande. La Cour suprême a dit que le cas de l'immunité, ils entendraient cette cause-là, repoussant les délais dans probablement le procès le plus important, la cause la plus importante, qui est le 6 janvier, donc sa responsabilité dans l'insurrection au Capitole. Ça serait étonnant que ce procès-là se déroule avant l'élection, selon les experts, là.
Ne pas avoir pris de position clairement hier en disant qu'il n'y a pas d'immunité, c'est une prise de position déjà de la Cour suprême. Il a repoussé ça le 22 avril. 22 avril, selon les experts, ça amène un jugement vers la mi-juin, approximativement, où là, ils vont dire, effectivement, qu'il n'y a pas d'immunité. Parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Un gars, il ne peut pas se tirer dans la rue quelqu'un parce qu'il est président. Là, ils ne peuvent pas dire autre chose. Mais ils vont dire à la mi-juin. Et donc là, le procès de Jack Smith sur l'insurrection et d'autres procès vont commencer à partir du mois de juin. Ça va opérer durant l'été, mais ça leur prend au moins 2 mois à 3 mois avant de lancer. Fait que là, on se retrouve en septembre-octobre. C'est ça l'avantage de Donald Trump, c'est qu'il risque toujours à retarder ses procès.
C'est ce qui nous amène un peu à la fenêtre. Moi, j'ai un souvenir très très sombre de la fenêtre de l'automne 2016, puis après ça de l'automne 2020, de la fête du travail à l'élection. C'était un 10 semaines où c'est plus uniquement les junkies qui suivent la politique qui s'y intéressent, mais c'est toute la population, tous les gens qui sont appelés à voter. Et il y a des éléments dans l'actualité, on a l'impression à chaque fois qu'ils sont très volatiles, puis qui peuvent faire bouger l'aiguille d'un côté ou de l'autre. En 2016, c'était l'histoire des courriels, la prise de position du directeur du FBI. En 2020, le décès de Ruth Bader Ginsburg, toutes les audiences pour la remplacer à la Cour suprême. Là, il y a cette histoire de procès-là. Aura-t-il pas lieu? Il va y avoir une pression énorme pour que les Américains aient leur juste. Puis en même temps, le ministère de la Justice voudra peut-être pas aller dans une cause de cette
ampleur. Oui, mais ça sera pas leur responsabilité. Ça va être entre les mains de la juge Shotkin, puis ça sera pas Merrick Garland qui va dire si le procès a lieu ou pas. C'est pas comme s'il devait confier quelque chose à un procureur spécial. Ça, c'est déjà fait. Fait que moi, je pense qu'il y a encore une chance qu'il y ait un procès là-dessus.
Mais en même temps, dans la perception qu'il y a une chasse aux sorcières, dans la perception qu'il y a une chasse aux sorcières, si le procès a lieu, on va avoir l'impression que les dés sont pipés. Si le procès n'a pas lieu, on va avoir l'impression que les dés sont pipés.
Mais il va y avoir procès. Il va l'avoir. Est-ce qu'il y aura un jugement? Est-ce qu'il y aura un jugement? Ça, c'est autre chose. Mais le procès, lui, va avoir lieu. Il n'y a rien qui va empêcher. La machine est partie. Puis ça, ce que tu viens de dire, Thomas, il y a quelque chose de fondamental en politique. C'est celui qui contrôle l'agenda qui gagne. Fait quand tu imposes ton agenda, si l'agenda est sur, par exemple, l'immigration, t'es sur le terrain de Donald Trump. Si l'agenda est sur l'économie, c'est moins clair. Si l'agenda est sur les problèmes sociaux, là, t'as un avantage démocrate. T'sais? Puis l'avantage que ça, Joe Biden, démocrate, c'est qu'ils sont au pouvoir. Quand t'es au pouvoir, tu peux souvent imposer l'agenda qui est là. Il s'agit de bien circonscrire ce terrain-là. Mais comme toujours aux États-Unis, il y a des événements externes qui arrivent. Puis là, c'est celui qui est capable de mieux possible de récupérer ces événements-là. Mais il va se passer tellement de choses entre ce qu'on dit aujourd'hui puis ce qu'il y a en septembre prochain. Là, t'sais, nous autres, les sondeurs, on est très bons pour prédire le passé.
Puis d'ailleurs, je faisais l'analyse des sondages en 2012, quand Barack Obama est en campagne de réélection contre Mitt Romney. Souvenons-nous, Mitt Romney d'ailleurs qui a dit, éminent sénateur du Utah, qui a dit qu'il ne se représentait pas. Donc, il y a une liberté de parole quand même assez incroyable. Mitt Romney en 2012 mène à ce stade-ci de l'année. Et c'est vraiment fascinant. Par mois, tu vois qu'en janvier, février, mars, dans la moyenne des sondages, Mitt Romney est en avance de 3-4 points. Et plus ça se rapproche à partir du printemps et de l'été, c'est Barack Obama qui revient. Puis on sait qu'il y a une victoire quand même assez importante. Donc ça m'a quand même permis de dormir un peu mieux entre vous et moi. Ça m'a comme calmé un peu parce qu'on observe une tendance quand même. Ça a été vrai aussi pour la réélection de George Bush. Il semble y avoir une tendance qu'à 9 mois des élections, les sondages sont vraiment un snapshot in time, comme on dit.
Ils disent pas toute la vérité. On mesure du jello. On mesure un électorat qui est pas clair. C'est le fun. Ça fait la une des journaux. Mais on le sait que derrière ça, là, c'est du mou encore, là, qui est dans les sondages. Mais dans le cas de Romney Obama, il y avait quelque chose de fondamental. C'était le premier noir qui se présentait à la présidence des États-Unis. Fait que les sondeurs, là, on se demandait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mesure les vraies affaires? Est-ce que mes metrics habituels sont bonnes encore une fois? T'sais? C'est faire la même chose quand il y aura une femme présidente. On va être un peu gêné parce qu'il y a des choses qu'on contrôle pas sur les gens qui sont anti-femmes ou les gens qui sont pro-femmes. T'sais? Dans le cas de Barack Obama, c'est toute la dynamique où ces gens ont vraiment voté. La communauté noire, la communauté scolarisée, les jeunes, il y a eu un effet là, où ces gens-là qui normalement votent pas ont voté. Donc le taux de participation a monté. C'est ce qui a fait gagner Barack Obama à l'élection. Fait que des fois, il y a des facteurs externes là, qui sont forts. Et c'est ça les sondeurs. Les défis des sondeurs, c'est le taux de votation. Il est à 66% de gens qui votent aux États-Unis. Fait que les 34% qui votent pas, on s'en fout. Fait que là, les sondeurs, faut qu'on vise la bonne clientèle. Puis l'autre entier, c'est les radicaux. Parce que la gang de Trump, en 2020, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a frappé sur le système en disant, faut pas voter par anticipation, vous allez faire l'élection.
Il dit, I'm gonna get rid of all mail-in ballots. Il a dit ça, là, cette semaine.
C'est une connerie, parce que son monde, donc, dit, parfait, je voterai pas, ou même le système n'est pas bon, j'irai même pas voter, c'est de la merde. Ça, là, c'est pas d'intelligent. Quand on pense que Trump est intelligent, en termes marketing, il est phénoménal. En termes politiques, là, qui dit des conneries, ce gars-là, c'est incroyable, ça, ça en est une.
Et c'est ce qui me permet de retrouver quand même un peu d'espoir, parce que moi, j'aime bien vivre d'espoir. Je suis l'optimiste du duo. Thomas est beaucoup plus pessimiste que moi, mais moi, j'ai une obsession pour le dada. Donc, le dada, qui est un mot qui revient beaucoup dans le discours, que vous êtes l'expert du dada, Jean-Marc Léger. Trump a perdu tous les cycles électoraux depuis une victoire à l'arraché en 2016. J'ai vraiment qu'on revient quand même.
C'est pas le futur. T'es ailleurs. C'est ailleurs, là, dans la dynamique actuelle, avec des procès que tu es dans un terrain inconnu. Les variables passées n'existent pas, là. C'est comme qui aurait dit que plus il se fait accuser, plus il gagne. Trump a dit une phrase, là, puis il a raison. Je suis à un procès de la présidence des États-Unis. Hey, c'est comme, c'est fou. Fait que là, t'es dans un terrain inconnu. Fait que ce qui s'est passé dans les 200 dernières années, là, non, t'arrives dans un univers. Est-ce que Joe Biden va être encore là à l'élection? Va être encore vivant à l'élection? Hein? Est-ce que Trump va être encore vivant? Les deux ont 78 et 81 ans. Il va se passer plein de choses, ces élections. Moi, je vais à la convention démocrate et républicaine, celle des démocrates est à Chicago, Miou, là. J'ai hâte, parce que c'est possible qu'il y ait une vraie convention, que Joe Biden soit pas le candidat, c'est en gosse. 5-10%, c'est possible. Hein? Il va se passer des choses, là. C'est fascinant ce qu'on va voir au cours des prochains mois.
Mon Dieu, quelle angoisse.
Hein? On écrit l'histoire avec ça. Mais faites confiance au peuple américain. faites confiance. L'élément majeur, c'est qu'on focus sur Trump. Mais derrière ça, là, il y a une colère des électeurs qui s'exprime par Donald Trump parce qu'il va aller chercher, mais qui s'exprime aussi par Pierre Poilievre ici au Canada, qui s'exprime d'une autre manière. Fait que chez Trump, tu as des évangélistes religieux, tu as des religieux qui sont à l'église à toutes les semaines, puis qui ont la Bible comme le président de la Chambre, Johnson, là, qui dit « Moi, mon plan électoral, c'est la Bible, là, c'est ce qu'il a mentionné, là, c'est ça son plan. » Tu as du monde comme ça, puis de l'autre côté, tu as l'extrême droite violente, agressive, armés jusqu'aux dents, les deux là sont dans le même parti puis s'embrassent. Tu dis, comment il fait ça? T'es? Parce qu'il y a une colère qui est là, il y a de l'anti-système, puis il y a surtout le fait important, les Américains, depuis l'attaque de 2001, ce sont des perdants. Ce sont des gens qui sont fait frapper, c'est une économie qui tombe, leur réputation dans le monde tombe, ils veulent avoir quelqu'un de fort qui revienne, ils veulent revenir des gagnants, puis c'est ça Donald Trump. Il n'y a pas de raisonnable. C'est une émotion.
Alors que c'est l'homme politique le plus perdant de l'histoire moderne des États-Unis. Midterms 2018, présidence 2020, quoi qu'il en dise, midterms 2022, toutes les élections spéciales, les deux runoffs en Géorgie, chaque endorsement de Trump a perdu depuis 2016. Et il a gagné par quoi? C'était 40 quelques mille voix dans cet État-clé en 2016. C'est un loser incroyable, tu sais.
Ouais, c'est sûr. Mais il n'y a pas cet esprit-là. Si tu demandes aux Américains est-ce que c'est un gagnant, c'est parce qu'il lâche jamais. Il lâche jamais, puis à la fin, ses menteries deviennent des vérités, hein, puis il réussit. Parce qu'il réussit à contrôler le système. On est dans une élection avec un système de médias qui est tellement dilué avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Tu peux dire n'importe quoi, tu as toujours une chambre d'écho qui fait, parce qu'il touche le frustré américain qui n'a pas le droit à la voix. Tous ceux qui sont que le système a laissé pour compte, là. Il est capable de fédérer tout ça. Fait que Trump, ça va comme personnage, on sait qu'il n'est pas fiable, mais derrière ça, là, il y a un électorat qui cherche un sauveur, puis c'est Trump qui est là. Les démocrates ne sont pas attirants. On a beau dire que Joe Biden est bien, ils ne sont pas attirants. Pourquoi tu vas te démocrate aujourd'hui? C'est parce que t'as eu Trump. OK.
Mais j'apporterai des nuances. Il y a quand même des choses qui ont été vérifiées dans les derniers cycles électoraux, même si vous dites qu'on est ailleurs. Non, mais je sais que tu ris, Thomas, mais quand même, mais en 2022, on disait la démocratie puis l'avortement, ça sera pas si important, c'est l'économie. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été un vrai sujet. Ça a mobilisé beaucoup plus puis ça a été mal vérifié par les sondages, ça. La red wave, là, comme dit Joe Biden, qui s'est écrasé sur les rochers avant d'arriver sur la berge, on pense que c'est la démocratie. Je me rappelle Joe Biden qui donne un discours en Pennsylvanie sur la démocratie la veille des midterms. Les gens disaient, mais il est fou. C'est l'inflation. Finalement, la démocratie a joué. Et Trump était on the ballot, même s'il n'y était pas, il était là très omniprésent. Ça a quand même été vérifié dans les derniers cycles. Ça. Moi, j'ai quand même un espoir qu'en 2024, l'avortement, la démocratie, surtout si on a un procès sans verdict, est-ce que le peuple américain deviendra alors le jury de cette question fondamentale? Est-ce que Trump a fomenté une insurrection? Si c'est un référendum là-dessus et que la démocratie, comme vous le disiez, contrôle l'agenda, et que c'est le sujet, le ballot question, est-ce qu'on peut pas avoir un peu d'espoir?
Vous savez, sur un billet de vote, des fois, là, t'as 30 votes qu'il faut que tu fasses. C'est pas oui ou non, là, Trump-Biden, là. C'est plus compliqué que ça. Puis quand t'as un référendum sur l'avortement, il faut que tu prennes position, ça influence ton vote sur l'autre. Ce sujet-là, c'est un sujet que la grande majorité des Américains appuient la position démocrate, là. Fait qu'il y a des éléments, mais ils ont plus de difficultés à packager, ils ont plus de difficultés à contrer cette émotion que Trump, là, représente, là.
Non, mais je veux dire, les démocrates ont de la misère à faire rêver depuis les Obama. Il n'y a pas un autre candidat qui a réussi à faire rêver les Américains comme cette famille-là. Là.
Exact, parce que tu sais, les gens votent davantage par leurs émotions. Hein. En bout de ligne, oui. Là, c'est un choix. T'sais, on dit souvent qu'on ne se rappelle pas de ce que le politicien dit, même s'il a promis, mais on se rappelle de l'émotion que c'est en nous.
Oui.
C'est ça
vrai.
Qui drive, c'est ça qui amène jusqu'à l'élection, au jour d'élection, quand tu rentres dans l'isoloir et tu votes, là, tu as une émotion qui est là. Hein. C'est ça que les démocrates ont perdu. Je te raison, Thomas. Alors que Trump, pour sa clientèle, il suscite cette émotion-là. C'est comme un pied de nez aux élections américaines. Mais les gens ne sont pas conscients de la conséquence de tout ça.
Moi, j'ai l'impression que Nikki Haley, en ce moment, est en train de jouer un rôle similaire à Bernie Sanders en 2016. Elle consolide une espèce de base anti-candidat dominant, ce qui était le cas d'Hillary Clinton. Mais donc, il y a beaucoup de gens. Dans la défaite d'Hillary Clinton, il y a beaucoup d'analystes qui ont dit que les supporters de Bernie Sanders ne se sont pas ralliés à Clinton. Pensez-vous qu'il y a là des... Est-ce qu'il y a un chiffre intéressant pour Biden? Est-ce que les démocrates ont raison de voir dans les Never Trumpers que Nikki Haley entretient en restant dans la course un bassin qui pourrait voter Biden?
Ah, mais c'est certain, parce qu'elle attire des indépendants aussi, parce que, tu sais, la composante américaine, t'as environ un tiers qui sont républicains, un tiers démocrates, puis un tiers d'indépendants. Mais tu vois, là, ils bougent en fonction des événements puis des États. Nikki Haley a cette fonction-là, elle attire quelques indépendants, plus les républicains plus traditionnels, là, fiscalistes, entre autres, qui, plus traditionnels. Et dans le vote, par exemple, en Caroline du Sud, 40% de ceux qui ont voté à Haley disent qu'ils voteront pas pour Donald Trump. Hein?
C'est du monde, ça.
Puis Trump va la traiter de moins que rien, comme il fait jusqu'à maintenant. Là. Il n'est pas conscient qu'il frappe son monde. Là. Fait que, tu sais, il y a un effet derrière qui n'est pas positif, qui fait que bon, peut-être que Trump va déstabiliser tout ça. C'est un château de cartes. Pour l'instant, il mène ça, il réussit à tenir, mais tôt ou tard, là, ça va commencer par le procès Stormy Daniels la prochaine fois. C'est le proche premier, en fin de mois de mars, ça, c'est le premier procès criminel qu'un ex-président des États-Unis subit depuis le début de ce pays-là.
Hein? Pensez-vous que ce procès-là peut faire bouger l'aiguille d'un côté ou de l'autre, ou la question est trop...
On va le voir avec des menottes rentrées dans une prison avec un suit orange, là. Quand ça va arriver, là, c'est la fin pour Donald Trump.
Peu importe si c'est...
Ça va se passer. Si ça arrive.
J'ai des frissons.
Cet homme-là, il est soit président des États-Unis, soit en prison. Certains disent les deux, là, mais moi, je pense que c'est un ou l'autre.
Jean-Marc Léger, je voudrais en savoir un petit peu plus sur la business du sondage, parce que moi, ça me fait toujours rire comment on entend ces noms-là, Rasmussen, CNN, New York Times. Il y a comme des sondages un peu légendaires aux États-Unis. Il y en a qui vont pencher. Puis les sondeurs aussi sont pas nécessairement neutres. Il y a des sondeurs plus, on va dire, de gauche ou libéraux, liberal. Puis il y en a qui sont un petit peu plus de droite. Comment ça marche, ce game-là? Comment on s'associe avec des institutions, des médias? Comment on tire son épingle du jeu? Est-ce que vous faites les sondages aux États-Unis pour les médias canadiens? Vous avez des partenaires américains? Comment ça marche?
D'abord, au Canada, les journaux ne payent plus pour les sondages. Hein? Donc, au Canada, tu le fais parce que moi, j'ai un rôle social. Je ne suis pas obligé de sonder. Je sonde parce que je trouve qu'ils se disent n'importe quoi. Puis moi, je sonde à chaque fois. Mais tu te fais critiquer par tous ceux qui perdent dans les sondages. Hein? C'est 1% de mon chiffre d'affaires, 99% de mes troubles. Okay. C'est ça, ils sont... c'est comme au Québec. Aux dernières élections, les gens n'ont pas parlé, mais au fédéral, par exemple, là, tous les gens au Canada anglais mettaient le bloc entre 15 et 20 d'intention de vote. Moi, j'étais à 30. C'est ça. Si j'étais pas là, il y aurait eu un effet qui aurait été fort en disant que le bloc est fini. C'est pas vrai, il est fini avec 32. Donc, ils se disent tellement de conneries là-dedans, c'est que on a un rôle comme ça. Bon, aux États-Unis, t'es dans une dynamique différente. C'est une vraie industrie. C'est des centaines de millions de dollars qui sont investis en sondage à chaque année. Et les firmes sont soit démocrates, soit républicaines. T'as très peu de firmes qui sont neutres.
Ah oui.
Parce que c'est une business. Ils travaillent avec l'élu local. Parce que l'élu local au municipal, il est démocrate ou républicain. Le lieutenant-gouverneur est démocrate ou républicain. Fait que c'est toute une machine électorale. Puis il n'y a pas de limite de dépenses électorales. Les groupes de lobby, puis ainsi de suite, c'est pas contrôlé. C'est l'argent qui contrôle l'élection américaine.
On est loin de l'interdiction de cocktail de Geneviève Guilbeault. Ça, c'est sûr.
$100, comme si tu influençais un ministre avec $100. Là, mais aux États-Unis, c'est pas ça. Fait que ce qui se passe, c'est que non seulement le sondeur est d'un côté, le média aussi est d'un côté ou de l'autre. Fait que dans chaque ville, t'as le média républicain, puis t'as le média démocrate. La majorité, des fois, c'est des villes plus petites ou autres, là. Fait que le sondeur travaille pour d'un côté. Fait que quand tu parles de Rasmussen, c'est républicain à la tonne, là, t'sais. C'est sûr que si tu regardes ça, le résultat est pro-républicain. Trafalgar, ça dit des choses, c'est absurde. De l'autre côté, t'as Data for Progress, qui est très démocrate. Fait que nous, on sait lesquels sont les plus objectifs, là, les plus proches de la réalité, et qui dans une campagne électorale. Fait que c'est pour ça que t'sais, faut faire la différence entre les sondeurs et ceux qui ont une certaine objectivité aux États-Unis. Fait que c'est pour ça que les sondages sont souvent utilisés dans les campagnes électorales pour des raisons électorales, non pas pour mesurer l'électorat. Faut faire la différence.
Vous les faites à votre compte? Vous les faites pour des partenaires, pour des médias? Comment
on
ça...
trois médias. On travaille avec le Los Angeles Times. Je suis sondeur du LA Times.
Ah ouais?
Excuse-moi, c'est big, là.
Alors, The Atlantic, ça, c'est pour des dossiers de fonds. Fait qu'ils nous appellent à chaque, mettons, moi, on m'appelle, on fait un dossier spécifique sur ceci, puis on fait ça. Puis je travaille aussi avec le New York Post. Ça, c'est assez spécial. C'est moi qui faisais les sondages post-débat républicain pour le New York Post.
Le New York Post qui est quand même très républicain, là.
Fait que quand mon sondage donnait que DeSantis a bien performé, je suis en première page. Quand DeSantis c'était pas bon, j'étais à la page 32.
Incroyable.
C'est fou! Mais c'est ça! C'est ça la dynamique américaine, là. C'est un autre ball game, hein. C'est une autre réalité où l'argent mène tout. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ces limites-là, aux États-Unis. Mais ça demeure fascinant parce que, tu sais, c'est un gros pays avec des intérêts qui sont immenses, là, derrière ça, là. Et ce qui fait que quand tu sors aux États-Unis, t'as l'impression de faire partie de la Ligue nationale. Au Québec, t'es encore dans la Ligue junior majeure. Au Canada, dans la Ligue américaine. Aux États-Unis, t'as l'impression d'être d'une grosse ligue, là. J'y connais tous les partenaires américains en passant, là. C'est tous devenus des amis, ça.
Et à quel point un sondage fait la nouvelle aux États-Unis, c'est incroyable. Moi, je suis un accro de CNN puis de MSNBC, puis bon, je suis un peu plus à gauche qu'à droite, là. Mais quand un sondage sort, le monde s'arrête, une musique dramatique part, ils sont 12 autour d'un panel et ça, ils débrayent leur programmation. C'est incroyable. Et là, après ça, c'est sur Twitter, c'est à l'écrit, c'est, on en parle pendant une semaine et c'est assez apocalyptique, là. Quand un sondage sort, c'est should Biden drop out ou should, tu sais, c'est rarement nuancé.
Faut qu'ils découvrent un angle. Faut quelque chose. Les Américains, là, sont toujours dans la nouveauté. Hein. Fait qu'il faut qu'ils découvrent quelque chose de nouveau. CNN travaille avec la firme qui s'appelle SSRS de Philadelphie. Des amis à moi, certain. Puis, forcément, leur sondage chaque année, c'est quoi la nouvelle? C'est quoi l'angle? Qu'est-ce qu'ils veulent mesurer? T'sais? Ça, c'est du solide. Même chose à Fox News. Fox News, ils travaillent avec des firmes qui sont extrêmement solides. On pense que Fox News, c'est un peu, en termes de nouvelles, c'est biaisé. Les sondages sont bons. Les sondages de Wall Street, c'est des bons sondeurs également. Fait que, tu sais, t'as certains médias que tu peux te fier, mais la nouvelle, forcément, ça devient une nouvelle qui est portée par tout le monde. Tous les analystes sont autour du sondage. Ça devient quelque chose de clé. Et c'est pas juste une nouvelle comme nous, quand on le fait au Québec, t'as une grosse nouvelle le matin à 10h, elle n'existe plus. Elle, ça roule pour 24/7, là. Pendant une journée, deux jours, trois jours de temps, tout le monde s'en empare, chacun fait son analyse, là. Fait que t'es dans une dynamique différente, là. T'sais, mais les sondeurs, ils sont pas meilleurs que chez nous, hein. C'est pas parce que c'est plus gros, hein. Les techniques sont les mêmes, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit ici, là, qu'on soit au Canada, là. T'sais, les techniques sont les mêmes. Puis je dirais aussi que les Canadiens sont plus sables que les Américains. Les Américains, ça peut bouger davantage, là, en termes d'intention de vote, là. Surtout quand t'arrives dans les extrêmes, t'sais, les radicaux, là, tu fais comment pour aller les chercher, t'sais? Ils te raccrochent ta ligne au nez, ils répondent pas aux sondages. Ils sont surtout en ligne, là, aux États-Unis. Les sondages sont en ligne, soit par téléphone ou autre, là. Puis ça répond pas. T'sais, fait que faut que tu travailles davantage pour aller les chercher.
Comment t'es sollicité pour un sondage? Moi, j'ai jamais reçu un coup de téléphone. D'ailleurs, j'ai hâte, mais c'est pas encore arrivé. Je vous dis ça comme ça. Est-ce que le téléphone sonne? C'est un message enregistré? On reçoit un courriel? Comment? Et concrètement, c'est quoi le moyen de communication?
Le plus important, là, c'est que nous, on a le plus gros panel au pays. Donc, on a présélectionné, on a 400 000 panélistes actifs qui ont été présélectionnés, qu'on recrute de toutes les manières. Par les médias sociaux, tout ça, là, on a un panel qui s'appelle Léo, le Légion Opinion, là, puis on recrute les gens qui font partie du panel et qui sont payés pour répondre aux sondages. C'est ça qui est fascinant, là, t'sais? Et c'est ça qui fait qu'on est capable de rejoindre rapidement une clientèle précise. Je rejoins, par exemple, des gens qui ont tel type d'automobile ou qui ont voté pour tel parti, je suis capable de les rejoindre facilement, là, avec ce, en ligne. Puis en ligne, l'avantage, c'est que tu réponds quand tu veux. Par exemple, moi, j'ai 5% des répondants qui me répondent au milieu de la nuit. Je les téléphonerai pas, là, tu sais. Fait que ça se fait soit par texto, par ça. Fait que t'as toutes sortes de moyens techniques pour aller les chercher. J'ai essayé de faire des sondages par les jeux, pour les gamers. Jamais réussi, mais ça, c'est un autre moyen d'entrer dans le système, là, tu sais, pour aller chez les plus jeunes, là. On le fait aussi en parallèle au téléphone pour les gens plus âgés. On développe la technique en fonction des différentes clientèles qu'on va chercher.
La démographie, mettons que c'est un sondage sur quoi? Un échantillonnage, souvent c'est 1000 personnes. Là, on voit ça, 1000 personnes, ça reste assez crédible. On veut aller chercher la démographie, mettons un état clé. On sait que, par exemple, le Michigan, Détroit, c'est particulier comme vote. C'est pas... Est-ce qu'on a des gens comme ça dans...
Il y a trois choses d'un sondage. Un vrai sondage, c'est trois affaires. Les questions que tu poses. Chaque mot que tu utilises est bon. Tu sais, mettons, sur le projet Norvolt, là, si je dis favorable pas au projet Norvolt, ou je dis favorable pas au projet Norvolt qui va créer sans emploi. Je mesure pas la même affaire. Hein? Fait que la question, par exemple, en intention de vote, est-ce que tu dis Parti québécois ou Parti québécois de Paul Saint-Pierre-Plamondon? Oh, c'est pas la même affaire. Tu mesures pas le même niveau. Fait que la question, c'est fondamental. Ensuite de ça, t'as qui t'interroge. Et là, faut que t'ailles chercher du représentatif. Saguenay-Lac-Saint-Jean représente 4% du Québec. T'as 4% des gens qui doivent venir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? La même chose, je te dis. C'est le Détroit, j'ai pas le pourcentage, mais il faut que tu respectes. Et là, le troisième élément, c'est que ton échantillon est pondéré. C'est-à-dire qu'on s'assure que s'il y a 51% de femmes dans l'État, il faut que tu aies 51% des échantillons qui sont des femmes. Fait que le sexe, l'âge, la scolarité, le lieu de provenance, l'ethnie, le groupe ethnique est extrêmement important. Tu t'assures d'une représentativité parfaite. Et là, ton sondage est bon. Mais il y a une coche de plus qu'on fait. On leur demande pour qui ont voté à la dernière élection. Puis c'est là qui permet de valider la qualité de l'échantillon. Si la dernière élection, ils disent qu'ils ont voté Trump à X% de plus, alors que dans l'État a voté Biden, je vais pondérer en conséquence parce que mon échantillon est trop roux, trop républicain, trop démocrate. Là, t'sais. Fait que tu as des techniques pour t'assurer de la représentativité de l'électorat.
Est-ce qu'on sonde juste des personnes qui sont inscrites sur une liste des registered voters, comme on dit, ou on sonde même ceux qui ne le sont pas?
C'est-à-dire que je leur demande, est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale? Ils vont me dire oui. Okay. Après, je vais poser d'autres questions. Par exemple, est-ce que vous avez voté à la dernière élection? Êtes-vous intéressé par la campagne électorale? D'autres affaires pour valider ce qu'il a dit. Là. Fait que j'ai une série de questions. T'sais. Puis la meilleure, dans un petit secret de sondeur que je vous partage, ma question la plus intelligente pour mesurer ça, c'est environ à 2 semaines des élections. Et ça, c'est la technique léger, là. C'est comment on fait pour savoir si la personne va voter ou pas. Fait que j'ai toutes sortes de modèles mathématiques, d'algorithmes, tout ce que tu veux pour être capable de voir, il va-tu voter ou pas. Tu sais, le 66% qui me disent qu'ils vont voter, là, c'est identifié. Et ma question, j'ai une question, ça m'a pris 30 ans pour la trouver, est simplement celle-ci. Quelle est la date de l'élection? S'il n'est pas capable de dire que l'élection, c'est le 5 novembre, lundi prochain, il n'ira pas voter. Hein? Tu vois, cette question-là est plus forte que toute la mécanique arithmétique ou algorithmique que je peux créer autour. Ça, c'est l'expérience. Pour ça qu'on est précis, on a cette expérience-là. Là.
Donc, l'engagement de l'électeur avec un minimum de connaissances factuelles sur la date de l'élection, etc. C'est sûr.
Si tu connais pas la date. La dernière fois, si c'est à quel où est son bureau de votation. Il y a plein de facteurs qui permettent de mesurer. Mais juste la date de l'élection, c'est le plus fort. C'est le plus solide.
Jean-Marc, à quel moment est-ce qu'on peut... Moi, je pense que je vais prendre un break des sondages là aux États-Unis parce que j'ai très mal dormi la nuit passée. Puis on va attendre de voir ce qui se passe. À quel moment est-ce que je peux recommencer à scroller Twitter puis à me dire que là, j'ai un peu plus, on est plus près de... Ça va être quoi? Ça va être à l'été?
Ça dépend des événements plutôt. C'est après les événements. Il faut que tu prennes un événement, il faut que tu attends après 2 semaines avant l'événement. Voir que c'est comme Trump, par exemple, quand il est accusé la première fois, d'ici la fin, pour la 32e fois, on dit Trump est mort. Fini! Hein? Ça a pris 2 semaines, il est remonté. Là, tu dis, ah, non, c'est fini. Il est remonté encore. Ça prend un temps. T'sais, c'est pas le lendemain de l'événement que les sondeurs sont bons. Là, on mesure rien, là. On mesure de n'importe quoi. T'sais. On dit un vieux dicton qu'on dit qu'on n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Ça bouge, là. C'est pas capable. Tu laisses un petit peu de temps, puis là, tu vois l'attente. Fait que si, par exemple, dans le cas de Stormy Daniel, il pourrait être inculpé et avoir 4 ans de prison. C'est possible, ça, dans celui-là. C'est même probable, en réalité. Si la loi était telle qu'elle, là, c'est probable. Il a payé une actrice porno 130 000 $. Il a pas diffusé cette information-là dans ses comptes. Et il a caché ça tout. Il a falsifié des documents. Il a repayé son avocat. Tout ce que tu veux. Ils ont toutes les preuves là-dedans. Bon, s'il est accusé, ben là, si cet événement-là arrive, tu te donnes 2 semaines, là, puis là, tu regardes. C'est quoi l'influence directe, là? Là, tu vas l'avoir. Parce que normalement, une tendance, quand t'as part à part. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va partir en vrille vers la baisse pour Donald Trump. C'est pas le cas aujourd'hui, là. Aujourd'hui, Donald Trump serait président des États-Unis. Le 5 novembre prochain, j'en doute.
Alors, ça m'amenait à la question. Oh, non, mais ça, c'est fascinant parce que moi, Jean-Marc Léger voudra pas faire une prédiction. Mais là, vous êtes mon idole à un autre niveau, Jean-Marc. Vous êtes capable de nous faire une prédiction?
Ben, prédiction, c'est difficile. Tu sais, je disais qu'un sondeur a une marge d'erreur. Ce que je doute, là, c'est que cet homme-là ne s'auto-détruise pas avant l'élection. Il a tellement besoin d'être dans la nouvelle, d'être au centre de tout, de vampiriser tout l'espace disponible. Il a réussi à battre le système politique et à gagner. Il a réussi à battre le système médiatique en disant que les médias, c'est des fake news. Il a réussi à casser le système. Le système légal, là, aux États-Unis, il est puissant. Même il a beau avoir toutes les contorsions possibles, il est puissant. Quand la semaine dernière, ils l'ont condamné à plus de 450 millions d'amendes, intérêts inclus, là, et quoi, hier, ils ont dit qu'il est obligé de le payer, le 450 millions, là, il lâche pas, là. T'sais, quand ils te mordent vraiment, là. Le problème, c'est que ça prend bien du temps avant qu'ils te mordent. Mais après, t'es pris dans un système, là, il est obligé de mettre 450 millions. Cet homme-là, là, il risque d'être dans la rue, il l'a pas, le 450 millions. Il l'a pas. Il l'a pas, fait qu'il va être obligé de trouver des moyens de céder toutes sortes d'éléments immobiliers, puis il a plus le droit d'exercer pendant 3 ans.
Il va être dans un HLM avec Rudy Giuliani, c'est comme rien. C'est vrai qu'il va arriver. j'aurais pris pendant 4 heures. Jean-Marc,
moi, j'avais une dernière pense.
Il va falloir s'en reparler dans l'année électorale. On n'a pas fini.
Oui.
9 months out. Il reste 9 mois, les amis. Attachez-vous. C'est ça aussi.
2 semaines après son inculpation, si cet homme-là a des menottes et est en prison, c'est là qu'il faudra faire une autre entrevue.
Ouais, c'est ça qu'on va faire.
Moi, j'avais une dernière question sur la précision. C'est-tu possible de faire un sondage en banlieue d'Atlanta? En banlieue de Pittsburgh, tu sais, ces fameux comtés swing, quand on regarde le soir de l'élection, Steve Kornacki puis John King sont tout le temps en train de nous dire « This is a barometer county » est-ce que c'est-tu possible d'être aussi précis que ça?
Oui, mais c'est parce que le barometer county change à chaque élection. Et ça, la difficulté, c'est que tu ne sais pas d'avant le soir de l'élection, quand tu arrives à l'écran, puis ils nous décortiquent ça, puis ils disent « Regarde, c'est là que ça se passe, parce que les autres n'ont pas voté encore, versus l'autre, ça. » Là, tes soirs d'élection, tu as des vrais résultats. Là, t'es. Dans le sondage, tu es encore dans l'aléatoire, parce que tu ne sais pas ça va-tu finir 47-47 ou 48-44. Alors, aujourd'hui, tu ne sais pas, hein, on va attendre jusqu'à la fin. Même les Américains ne savent pas pour qui ils vont voter encore aujourd'hui. Là. Fait que c'est faut que tu attendes que ça prenne. Non, c'est le monde entier dépend de ça. Et cette élection-là, quand ça va être passé, là, le monde va être différent. Soit qu'on a évacué le cancer, ou soit que ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré dans un univers autre, parallèle, où là, tu mets en place une équipe américaine qui est expérimentée puis qui sait comment jouer le système. Et là, t'es dans un monde différent, là, partout. Le Canada, les élections au Canada, les élections en Europe, tout change, là. Si le monde pense une élection comme les autres, là, oui, on a appelé au loup souvent 2016, 2020, mais là, t'as quelqu'un, là, c'est sa dernière chance.
Mais est-ce la dernière élection? Ça pourrait pas être mieux dit. L'ordre mondial, j'haïs à employer ces expressions-là un peu de conspirationnisme, mais l'ordre mondial va vraiment changer, je pense, si Donald Trump est élu, que ce soit la guerre en Europe, que ce soit si la Chine et la Russie deviennent les leaders mondiaux, parce que c'est ça qui va arriver, et que les États-Unis est une petite île d'isolationnisme entre eux avec des casquettes rouges puis des sneakers gold, on est dans marde. C'est ça.
Moi, je voudrais dire une chose. La clé, là, est dans les mains, pas des banlieusards, pas des dissidents, est dans les mains des jeunes. Les moins de 35 ans, qui vont peu voter aux élections. Quand eux décident de voter puis de sortir, à cause notamment sur l'avortement, mais sur plein d'autres sujets, c'est eux qui font la différence. Fait que s'ils restent assis chez eux, c'est eux qui vont être complices de l'élection de Donald Trump. Si ça, c'est eux qui vont faire aider les démocrates. Fait que t'as beau sonder tout ce que tu veux, là, c'est le taux de vote des jeunes électeurs qui est la clé de cette élection-ci. L'avenir est dans leurs mains.
Jean-Marc Léger, merci. Oh là là, c'est extraordinaire.
Je vais aller faire du jogging parce que je suis épuisé, mais en même temps. Wow. La dernière fois que je me suis senti de même, c'est quand j'avais 14 ans et j'ai rencontré Céline au Caesar's Palace. Mon cœur battait tellement vite, j'étais tellement rouge, je voulais tellement tout dire. J'avais toute mon enfance à y raconter, puis j'ai juste eu 20 minutes. Là, j'ai l'impression d'avoir 5 ans à y raconter, puis on a eu 42 minutes. Quel homme.
Merci. Quel homme, Jean-Marc Léger. Wow.
Quel homme. Super. J'adore sa passion. J'adore aussi ses prédictions, qui ne sont pas vraiment des prédictions, il ne faut pas penser qu'il nous a prédit, mais c'est vrai que l'émotion que va susciter, même si, parce que les analyses, ouais, Stormy Daniels, ça, si on voit un ancien président des États-Unis avec des menottes aux mains, c'est fini. Aïe.
En même temps, on ne peut pas se baser là-dessus. C'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est trop un élément de chance. Moi, je reste quand même là-dessus optimiste, étrangement. De la méthodologie électorale qui consiste à faire sortir le vote puis à être excessivement ciblé puis à investir beaucoup d'argent. Tu sais, moi, je fais plus confiance à la machine puis aux connaissances que les démocrates peuvent avoir pour que le fameux vote des jeunes sorte, que dans les swing states, les gens aient voté.
Puis là où on peut avoir de l'espoir encore, je pense que c'est si Donald Trump continue à dire qu'il ne faut pas voter par anticipation,
continue
à diminuer tout ça. On sait déjà que les républicains ne votent pas beaucoup par anticipation. Déjà, c'est trash ce vote-là, c'est pas bon. Si les démocrates ont plus de cash. Tu sais, le cash, c'est aussi pour aller chercher grand-maman chez elle pour l'amener à l'aréna pour voter. Fait que,
ouais. Ça sera pas.
Il est permis de rêver encore, mais.
Ouais. Mais il a bien évoqué en quel point le 6 novembre, on sera plus dans le même monde. Là. Peu importe le résultat de cette affaire-là.
T'es fou, hein?
On est dans une autre affaire. Ouais. Hey, Martin, c'était malade.
Il a comme confirmé notre titre de balado. Tu sais, je suis comme content que.
que Jean-Marc Léger...
Ouais, aussi apocalyptique que nous, finalement. Alors que je pensais qu'elle allait comme être un peu plus dans l'analyse du Dada.
Statistique.
Mais assez émotif. Puis,
ouais.
Moi, je pense qu'il faut y reparler. Il faut qu'il devienne notre meilleur chum. Puis on va suivre les tendances avec lui.
BFF. BFF and Léger. Léger BFF. Bon.
Je vais aller me coucher. Je pourrais dire, je vais aller me coucher, je taboute. J'ai tout donné. Je viens de veiller de 10 ans. Mais je suis très content de cette rencontre.
À bientôt. Merci, Martin. Ciao.
Au revoir.